La libre antenne d'Europe 1.
Et nous accueillons Claude au 3921. Bonsoir Claude.
Oui, bonsoir Olivier.
Comment allez-vous?
Oui, ça va. Enfin, je préciserai, ça pourrait aller mieux.
Oui.
Ouais.
Vous allez nous parler de votre fils, hein, je crois.
Oui, tout à fait.
Et tout à fait. De ce qu'il traverse depuis un bon moment maintenant.
Oui. Oui, je voulais apporter, je veux apporter mon témoignage sur une situation dramatique qui est vécue par mon fils au Japon.
Oui.
Situation qui concerne également d'autres parents au Japon. Alors, tout d'abord, si vous le permettez, je voudrais mettre un petit peu cette affaire dans son contexte.
Oui.
Mon fils vit au Japon depuis 13 ans, il y est installé donc depuis 13 ans, il travaille là-bas, il a sa maison là-bas. Il a connu son épouse, une jeune femme japonaise, quasiment à son arrivée au Japon, à Tokyo, hein, il vit à Tokyo. Ils se sont mariés 3 ans après, donc ça fait 10 ans actuellement qu'ils sont mariés. Et le 10 août 2018, il y a un an passé maintenant, hein, son épouse a enlevé les enfants. Donc il est marié, il avait 2 enfants. Il a 2 enfants, un garçon qui est âgé de 4 ans maintenant et une petite fille qui a eu 2 ans le 4 septembre cette année. Et son épouse a disparu en fait avec les 2 enfants.
Oui.
Le 10 août 2018. Donc au départ, ça a été un peu un sentiment de panique, hein, et puis en se renseignant, on a rapidement compris que malheureusement c'était une manière de procéder au Japon assez courante par les parents japonais. Alors 80% à 90% des femmes pratiquent l'enlèvement parental. 10%, dans 10% des cas, ce sont les pères. Donc les enfants ont disparu et le lendemain de leur disparition, mon fils recevait un courrier de l'avocat de son épouse lui disant qu'il ne devait pas s'approcher des enfants, chercher à les revoir et qu'il allait recevoir par l'intermédiaire du tribunal les modalités pour les compensations financières. Point.
Est-ce que votre fils avait oui. senti cette situation arriver?
Non.
Est-ce que... Non.
Non. Non, des tensions existaient dans le couple.
Oui.
Ça faisait l'objet de discussions entre eux. Le couple, mon fils était venu avec son épouse et les 2 enfants passer des vacances au mois de juillet.
Oui.
Donc on s'attendait pas du tout à ça. Pas du tout à ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que son épouse a réagi la première, en enlevant les enfants. Et une fois qu'un parent part avec les enfants, on peut quasiment plus rien faire. Ce kidnapping est légalisé par les autorités japonaises. Et quand mon fils s'est adressé à la police pour signaler la disparition de son épouse, la disparition de ses enfants, les policiers lui ont dit qu'il n'était pas là pour s'occuper des affaires familiales et que c'était au tribunal des affaires familiales de régler ses problèmes.
Ce que vous entendez, en fait, Claude, c'est que oui. le droit japonais légalise, en fait, ces enlèvements parentaux. En tout cas, il les cautionne.
Ouais. Alors, ouais, on peut dire le droit japonais, je dirais plus la coutume. Parce que, l'enlèvement est puni au Japon, hein, par le code criminel, par un tas d'articles. Mais pour contourner ça, les Japonais ne considèrent pas que le premier déplacement des enfants avec un de ses 2 parents est un enlèvement.
D'accord, ce qui met déjà une notion totalement différente de la nôtre.
Ah oui, tout à fait. Chez nous, dans une telle situation, on pourrait déposer plainte pour non-représentation d'enfants. Le parent qui serait parti comme ça, sans raison apparente, avec les enfants, ferait l'objet de poursuites. et serait obligé de ramener les enfants en attendant que des décisions soient prises, qu'une séparation soit prononcée et qu'une décision de garde des enfants soit prononcée. Là-bas au Japon, non, on installe le parent qui s'en va avec les enfants s'installe, bénéficie de la protection des autorités. Après, on va jusqu'à un jugement avec une décision de garde des enfants. Donc, dans le cas de mon fils, lorsqu'il s'est adressé à la police pour signaler ça, bien évidemment, on lui a dit que ce n'était pas un enlèvement et que la police ne gérait pas ça. Donc, c'était au tribunal de famille de s'occuper de ça et une procédure a été lancée au tribunal des familles de Tokyo, où mon fils a déposé une demande de retour des enfants et une demande de garde des enfants. Entre-temps, le 20 août, juste après le départ de son épouse, mon fils avait remarqué que son épouse revenait à la maison. Bon, il faut savoir que quand elle est partie, elle a vidé entièrement la maison, complètement. Elle lui a laissé un mug et une cafetière.
Ce qu'il a fait constater, parce qu'on pourrait penser comme ça que c'est une situation totalement illégale d'enlever les enfants, bien évidemment, mais aussi de vider la maison. Or,
là, personne vient constater ça. Au Japon, vous avez personne qui veut s'occuper de ses affaires familiales.
Et avant que nous allions plus loin, est-ce que si votre fils avait pris cette décision, est-ce qu'il aurait été autant protégé si c'était lui qui était parti? Est-ce que le fait qu'il soit français et que voilà.
Je pense qu'il aurait pu bénéficier de cette protection.
D'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, au Japon,
on protège alors celui que j'appelle le parent kidnappeur, parce que même si ça déplaît aux autorités japonaises qu'on parle de kidnapping pour le premier déplacement des enfants, moi je parle de kidnapping. Alors. Bien évidemment, quand il a reçu ce courrier de cet avocat qui lui disait « Vous ne devez plus chercher à revoir vos enfants », ainsi de suite, quand il a fait sa démarche à la police, il a signalé que l'avocat de son épouse lui avait écrit ça. Et là, la police lui a dit « Mais surtout, ne cherchez pas à revoir vos enfants, à vous approcher d'eux, parce que là, par contre, on pourra vous poursuivre pour tentative d'enlèvement et harcèlement ». C'est ce qui lui a été notifié, pas par écrit, mais verbalement.
D'accord.
Donc, le 20 août, après le 10 août, mon fils s'est aperçu que son épouse revenait à la maison pour, en fait, faire des lessives, parce que la machine à laver, bon, là-bas au Japon, les machines à laver sont quasiment installées à demeure dans les habitations. Difficile de les déménager. Donc, il a signalé ça à son avocat, parce que bien évidemment, il a pris un avocat de suite. Dès le lendemain, il a pris un avocat. Et cet avocat lui a dit il faut rapidement faire poser des caméras dans la maison, parce que si elle revient, c'est toujours un élément qu'on aura, nous, dans le dossier, qui peut être intéressant pour la suite. Ces caméras ont été placées le 19 août dans la maison par des enquêteurs privés, mais habilités, agréés auprès des tribunaux. Et le 20 août, le lendemain de la pose de ces caméras, on voit ma belle-fille faire ce que j'appelle un acte de maltraitance sur ma petite-fille. C'est-à-dire qu'elle arrive à la maison et puis elle dépose la petite-fille dans le coffre pour vaquer à ses occupations dans la maison. Elle la pose à plat dans le coffre, comme ça, et elle s'en va. Alors c'est en période de canicule, c'est au mois d'août, c'est le 20 août. Il y a déjà eu des décès au Japon à ce moment-là, dû à la canicule. Et la petite reste dans le coffre. Là, la scène dure 4 minutes. Ma belle-fille redescend. Et puis là, elle ferme le coffre de la voiture, toujours avec la petite à l'intérieur, et elle remonte vaquer à des occupations dans la maison. Ça dure environ 4 à 5 minutes. Et puis au bout d'un moment, on voit ma belle-fille descendre, se mettre au volant, la porte du garage s'ouvrir et la voiture partir. Toujours avec la petite dans le coffre, posée à plat comme ça dans le coffre. Là, mon fils a dit, j'ai quand même un élément fort en ma possession. Il s'est rendu à la police, il s'est rendu aux services sociaux, il s'est rendu à la mairie de Tokyo. Et là, tout le monde lui a ri au nez. Personne n'a voulu s'occuper de lui. Personne n'a voulu prendre de plainte. Et on lui a rétorqué que les faits de maltraitance n'étaient pas caractérisés.
Ça paraît complètement insensé. Depuis l'année dernière, je crois que c'est l'excellent magazine sur France 2, Complément d'enquête, qui avait diffusé un sujet concernant certains pères français qui vivaient la même chose.
Mon fils en fait partie.
Votre fils en faisait partie, d'accord.
En faisait partie du reportage.
Et il est vrai que là, je crois qu'en France, on a saisi vraiment la dimension de ce drame que vivaient ces pères. On va continuer à en parler ensemble, Claude. On va voir quelles solutions, vous allez nous parler des solutions qui, si elles existent, s'offrent à votre fils. On marque une légère pause et on se retrouve dans quelques instants.
Oui.
À tout de suite.
Oui.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Et nous sommes toujours avec Claude qui nous racontait dans la première partie de cette émission l'aventure que traversait son fils Romain, 37 ans, qui... Eh bien, il y a un peu plus d'un an, hein, Claude s'est vu enlever ses enfants. Alors, on parle d'enlèvements parentaux. Là, on est totalement dans ce cas. L'épouse de Romain...
De Vincent.
De Vincent, pardon. Est partie donc avec le petit garçon et la petite fille de Vincent. Et donc, au Japon, visiblement, d'après ce que vous nous dites, il n'y a... On cautionne hein, ce parent qui enlève les enfants. Et c'est vrai qu'on a appris l'année dernière, lorsque a été diffusé ce documentaire, en tout cas, il y avait, je crois, 20 minutes ou 22 minutes qui étaient consacrées à ces parents français, hein, notamment, qui traversaient. C'était assez pétrifiant de voir le non-droit hein, que ces pères vivent. Alors. Aujourd'hui, en fait, où en êtes-vous ? Parce qu'on parle de votre fils, mais on parle aussi de vous, grands-parents, parce que je suppose que vous êtes, vous, totalement privé de voir vos petits-enfants.
Ah ben, totalement. Totalement. Ma belle-fille, par décision qui a été rendue au mois de juillet, a obtenu la garde des enfants. Mon fils n'a et elle refuse de les présenter à mon fils. Donc mon fils, depuis plus d'un an, n'a pas vu ses enfants. Nous n'avons pas de nouvelles d'eux, alors que les grands-parents japonais, bien évidemment, les reçoivent à la maison et profitent d'eux. Alors, moi, ce que je peux vous parler, c'est de ce qu'on a fait durant cette année. Durant cette année, donc mon fils a sa procédure qui est au Japon, mais qui a abouti à une mauvaise décision le concernant, puisque la garde des enfants a été attribuée à son épouse, sur des propos qui sont ahurissants, dont je pourrais vous donner des argumentations qui sont ahurissantes, dont je pourrais vous donner quelques exemples tout à l'heure. Alors, face à cette situation, nous, mon fils a déposé plainte en France au pénal, auprès du TGI de Paris, par l'intermédiaire de ses avocats parisiens, qui sont des avocats pénalistes spécialisés dans les droits humains. Donc la plainte est toujours en cours au tribunal de grande instance de Paris, et là, on espère qu'on pourrait avoir une suite favorable. On a déposé plainte en application de l'article 113.7 du Code de procédure pénale, qui dit que tout Français victime d'un crime ou d'un délit à l'étranger a le droit de déposer plainte en France. Et la plainte est déposée un peu au nom de nos petits-enfants, puisque ce sont eux les victimes, et ils sont binationaux. Donc ils ont la nationalité française aussi, et japonaise, puisque mon fils est en possession d'un livret de famille français pour ses enfants.
Pourtant, il me semblait que le Japon avait ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant.
Oui, tout à fait.
Ce qui veut dire que nous sommes dans une violation.
Tout à fait. La Convention internationale des droits de l'enfant date de 1989. Ils l'ont ratifiée en 1991.
Oui.
Mais de la même manière, ils ont ratifié la Convention de la Haye, alors qu'il ne concerne pas mon fils, puisque la Convention de la Haye concerne les enlèvements internationaux. Les déplacements internationaux.
Oui.
C'est-à-dire, si mon fils avait vécu en France avec son épouse japonaise et que son épouse japonaise reparte au Japon avec les enfants, il aurait censé être protégé par la Convention de la Haye qui a été rédigée en 1980 et que le Japon a ratifiée en 2014. Ils ont quand même mis 35 ans pour la ratifier. Mais que ça soit la Convention internationale de droits de l'enfant ou la Convention de la Haye, les autorités japonaises ne les appliquent pas, ces conventions.
Est-ce qu'ils ont été rappelés à l'ordre tout de même? Parce qu'on a de plus en plus de séparation dans ces conditions-là, avec des mères japonaises qui enlèvent ces enfants qui sont franco-japonais. Hein,
et, bien sûr, bien
avec
sûr,
des pères qui ne voient plus du tout leurs enfants. Hein, je le précise, parce qu'il n'y a même pas de... Pour en revenir à cette décision de justice, est-ce qu'on est revenu là, dans un cadre que nous, Français, nous connaissons? Est-ce qu'il y a eu... des positions, en tout cas la parole de l'un contre la parole de l'autre. Est-ce que votre fils a senti qu'il était un peu entendu, ou est-ce qu'il a eu cette même impression que depuis le début, hein, finalement, à la police, lorsqu'il s'est déplacé pour la première fois? Est-ce qu'il a continué d'être dans ce sentiment de ne pas exister devant cette justice japonaise?
Ah non, il a le sentiment de ne pas exister. Il est... on a balayé d'un revers de main toutes ces argumentations. Si vous voulez, quand l'affaire a débuté, on a dit à mon fils, attention, n'essayez pas de vous approcher des enfants ou de les contacter. On vous poursuit, comme je vous disais tout à l'heure, on risque de vous poursuivre pour tentative d'enlèvement et harcèlement. D'accord ? Donc, durant un an, il ne s'est pas approché des enfants. Bon, de toute manière, il ne sait pas où ils sont, hein. Et là, dans la décision de garde, le juge des affaires familiales lui notifie qu'il n'a pas, une des raisons pour lesquelles il n'a pas la garde, c'est qu'il n'a pas pu, depuis un an, établir de relations sérieuses avec sa petite fille.
Oui. Oui, ce qui veut dire, oui. En fait, donc, il était dans l'impossibilité d'établir la moindre relation, vu qu'il ne voyait pas ses enfants.
Mais voilà, mais le tribunal le sait, mais ça ne les empêche pas de l'écrire.
Et dans ce qui a été décidé par ce tribunal, est-ce que votre fils a tout de même le droit de voir ses enfants?
Non.
Du tout?
Non, il n'est pas fait état de droit de visite. Alors le problème, c'est que le droit de visite au Japon n'existe pas tel qu'on peut le connaître, nous.
D'accord.
Le droit de visite au Japon est de 2 heures par mois dans une salle médiatisée, hein, c'est-à-dire sous surveillance. Pour tous les parents, hein, qui n'ont pas la garde, hein, c'est pas.
On est d'accord que cela concerne aussi les pères et les mères, hein, japonais.
Ah oui, je parle de parents, oui. Ouais. Oui. Donc c'est 2 heures dans une salle médiatisée par mois.
Donc quand. Comme si finalement le parent qui reste sur le carreau, hein, celui qui n'a pas enlevé les enfants, était tout de suite un mauvais parent que l'on doit surveiller absolument. Parce qu'il existe ce type de mesure en France.
Hein, oui, tout à fait, mais pour les parents violents.
Mais pour des parents qui dysfonctionnent.
À risque, violents, ouais. Voilà. Non, au Japon, c'est systématique.
C'est incroyable.
C'est systématique. Alors ça, c'est un droit de visite, hein, parce que ce qui est considéré aussi comme un droit de visite au Japon, c'est un échange FaceTime, par exemple, par trimestre.
D'accord.
Et ce qui est aussi considéré comme un droit de visite, c'est des échanges de photos. Pas trop, hein. Quelques photos annuellement. Voilà. Et ça, c'est un droit de visite. Le problème, c'est que ces droits de visite, même s'ils sont écrits, rédigés, prononcés par le tribunal de famille, le parent qui a la garde des enfants n'est pas dans l'obligation de le respecter. Il n'existe aucune infraction. La police, les affaires sociales, les affaires familiales ne s'occupent pas de ça.
C'est assez incroyable, hein, ce que vous nous racontez pour un pays tel que le Japon. Parce que
voilà,
on parle d'une puissance, d'une puissance mondiale.
Mais tout à fait, vous savez, j'ai eu un contact avec un représentant d'un ministère, bon, je ne vais pas citer, qui me disait, mais monsieur, vous savez, en Afrique, nous avons des problèmes similaires. Alors, je lui ai répondu, torqué que je ne lui parlais pas d'un pays en voie de développement, que je lui parlais de la troisième puissance économique mondiale, membre du G7 et du G20. Et que peut-être même avec un pays d'Afrique, on ne rencontrerait pas des problèmes aussi importants. Vous voyez ?
On ne rencontrerait en tout cas sans doute pas cette rupture de dialogue et de possibilité. Quelles sont les solutions qui s'offrent à vous aujourd'hui?
Écoutez, nous, on a... Bon, mon fils a déposé plainte au pénal. Bon, ça, c'est une chose. Là, récemment, au début du mois d'août, le cabinet d'avocats qui représente mon fils et qui représente d'autres papas a déposé une requête auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.
Oui.
Pour parler de ces enlèvements parentaux. Il faut savoir que 400 enfants environ, on estime à 400 enfants par jour qui sont kidnappés par un parent au Japon. 150 000 par an, 155 000 par an. Et à l'heure où je vous parle, 3,5 millions d'enfants sont totalement privés d'un parent au Japon.
Et ce qui est totalement dramatique.
Alors on a déposé mon fils avec... d'autres parents ont déposé cette requête auprès des Nations Unies. Donc ce sont des parents de toutes nationalités. Hein. Il y a Français, Italiens, Américains et Japonais, dont une maman japonaise qui malheureusement est décédée il y a 4 jours. Elle sera décédée sans revoir son enfant. Et voilà, cette requête a été déposée par ce cabinet d'avocats en demandant la nomination d'un expert indépendant pour faire un rapport sur la situation au Japon et l'adoption d'une résolution exhortant le Japon à mettre un terme à ces violations répétées des droits de l'enfant.
Alors Claude, ma dernière question, elle concernera le soutien que vous pouvez recevoir, en tout cas que vous seriez censé devoir recevoir de la part des autorités françaises, parce qu'on parle tout de même de l'enlèvement de deux petits Français, hein, puisqu'ils sont Français. Est-ce que vous vous sentez soutenu dans cette démarche ?
Alors écoutez, le 26 juin, le président de la République s'est rendu à Tokyo dans le cadre du G20, et il a reçu 3 papas français, dont mon fils,
oui,
à l'ambassade de Tokyo au cours d'une réception. Il a été extrêmement choqué de cette situation qu'il a découvert quelque temps auparavant. Il a assuré les pères présents de son soutien et il leur a dit que tout serait fait pour essayer de mettre un terme à ces situations dramatiques, quoi, hein. Donc maintenant, on est en attente de savoir ce que notre président et ce que la diplomatie peut faire pour influencer le Japon à mettre un terme à ça. Après, notre fils se bat au Japon là-bas, il est soutenu par un député japonais, donc il va à la Diet japonaise fréquemment, avec un copain italien dans le même cas. Pour avec ce député essayer de faire passer dans la loi le principe de la garde partagée, mais ça c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué. Voilà un petit peu ce qui est fait, quoi, hein. Donc on compte beaucoup sur l'intervention du président de la République auprès de Monsieur Abe.
Oui. Et nous sommes, j'ai l'impression que nous sommes au début d'un combat. Alors voilà, ouais. si voilà, avec un président jeune comme notre président, on peut espérer en tout cas que vous aurez été entendu, Claude, ouais, et que les pères, ouais, français qui vivent cette situation dramatique seront un peu plus soutenus.
Bien
en tout
sûr.
Cas, ce soir, votre voix aura été entendue et à chaque fois que nous mettons cette problématique de ces pères en avant, de ces parents séparés de leurs enfants, eh bien, espérons que cela avance un peu. Merci en tout cas pour votre appel, Claude.
Merci à
vous. Et puis, je vous souhaite plein de courage, bien évidemment, à vous et à votre fils et à votre famille.
Merci.
Merci.
Merci bien.
Bonsoir.
Au revoir.
Claude.